Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Précieux Jésus, précieux Jésus, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Mais nous savons que ta promesse, elle ne peut être changée. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et c'est pour nous un espoir merveilleux pour nous qui sommes encore dans ce corps de chair, sur cette terre qui passera. Pour nous, c'est un espoir merveilleux, parce que nous savons que tu tiens tes promesses, Seigneur mon Dieu, et que la vie nouvelle que tu as mise en nous, par la nouvelle naissance lorsque nous avons cru, cette vie, Seigneur, nous fera rentrer dans les parvis éternels, avec un nouveau corps. Ô mon Dieu, nous languissons pour ce jour, lorsqu'enfin nous serons auprès de toi. Quelle merveille, quel soulagement, quelle gloire, quelle magnificence. Oh, quel bonheur lorsqu'enfin, Seigneur, loin de cette terre de péché, loin, Seigneur, de ce système diabolique qui nous entoure, nous serons enfin libérés et que nous serons avec toi. Mais, Seigneur, tu nous maintiens ici-bas sur cette terre afin d'avertir, afin de crier, afin de parler, afin de prier, afin d'exhorter pour, Seigneur, sauver le plus grand nombre, Seigneur, car le jugement vient et il viendra très certainement. Mais Seigneur, ceux qui ont cru en toi, ils échapperont. Nous attendons, Seigneur, de toi la délivrance. Merci, Jésus, tu es ici. Veuille nous enseigner encore au nom de Jésus. Et nous sommes toujours avec notre cher ami Jonas. Au chapitre 3, nous lirons verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, enfin il obéit. Selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret. Et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise conduite. Alors, Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. À la lecture de ce passage, nous pouvons nous demander si Dieu change ses décisions. Que veut exprimer ces mots? Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. D'autre part, l'Écriture nous dit dans bien des endroits, par exemple, dans Jacques chapitre 1, verset 17, que en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous lisons aussi dans 1 Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. » Par ces passages, il est clair que Dieu ne change pas ses décisions. Il est dit dans Actes chapitre 15, verset 18, que les hommes et les événements des nations lui sont connus de toute éternité. Là, nous avons un passage clé qui va nous aider à comprendre ce que veut nous dire l'Écriture. Dieu connaît les événements. Dieu connaît les nations et leurs réactions. Dieu connaît les nations en tant qu'ensemble et chaque individu. Tout est connu de lui de toute éternité, avant que le monde fût. Dieu est immuable. Il n'est point sujet à changement. Mais là, dans ce passage, il est clairement dit, Dieu alors regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. A-t-il changé son plan? Non, il n'a pas changé son plan. Mais alors pourquoi est-il exprimé de cette façon, dans ce passage, que Dieu aurait regretté? S'il a envoyé Jonas à Ninive, c'est pour le salut et la vie, ce n'est pas pour la mort. Mais ils ont besoin d'être amenés à la repentance par une menace de jugement et de destruction annoncée à travers Jonas que Dieu envoie. Si Dieu n'avait pas désiré et prévu la repentance de Ninive, il n'y aurait eu aucun objet d'envoyer Jonas à Ninive. Il connaît les réactions des nations, des hommes, des individus, avant même que les choses se passent. Et sa détermination et sa préférence, c'est de sauver et non pas de détruire. Et c'est en vue de ce salut qu'il a envoyé Jonas à Ninive. Mais voilà, Jonas refuse d'y aller et nous avons vu largement tout ce qui s'est passé et comment Dieu l'a obligé, si je puis dire, chargé de mission. Un missionnaire, un envoyé, pour porter un message avec une charge reçue de Dieu, ordonnée par Dieu, reçue un ordre qu'il doit communiquer aux autres, quelque part, loin là-bas, loin de son pays, loin parmi un peuple méchant, parmi un peuple rebelle et idolâtre, parmi un peuple cruel, parmi un peuple dominateur et despote. Jonas n'aime pas les Assyriens. Qui pourrait les aimer en Israël? Une puissante nation avec de nombreuses armées qui ont fait des massacres épouvantables, plein d'ambition, de domination et d'enrichissement sur le compte des autres, en pillant et en ramassant tout ce qui n'est pas à eux. Pourquoi leur porter ce message? Ils refusent de porter ce message. Dieu n'abandonne pas, et nous savons les grandes leçons que Dieu a enseigné à Jonas, tout en préservant sa vie. Jonas est vomi par le poisson qu'il a avalé. Nous avons parlé de cela largement dimanche dernier. Le voilà rejeté sur le sable de la plage, quelque part sur une plage de Méditerranée, sur la côte d'Israël. Les voici rejetés, vomis sur le sable. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'a ramené à la vie, car Dieu a un but. Mais à travers ces vicissitudes, à travers toutes ces histoires, Dieu a fait de Jonas un symbole qui parle fort au monde d'alors jusqu'au monde d'aujourd'hui, un symbole de la rébellion et de la méchanceté de l'homme et de la désobéissance naturelle de l'homme, mais un symbole de l'homme parfait qui est venu sauver, transformer. Le voilà rejeté là sur cette plage de la Méditerranée, quelque part. Il revient subitement à la vie, à la réalité. Il est ébloui par le soleil, ses habits sont tout mouillés, peut-être quelque peu gluants. Je vois mon Jonas assis sur une pierre, la tête entre ses mains, entre sa tête entre ses mains. Il réfléchit. Il pense à l'appel de Dieu. Et Dieu lui parle encore. Va à Ninive. Va annoncer mon message. Fais-y la proclamation que je t'ai demandé de faire. Ça sonne dans son cœur. Il doit obéir. Dieu l'envoie. Dieu lui a donné un message. Probablement que, après avoir rincé quelque peu ses vêtements et séché au soleil sur les pierres chaudes, il les a remis et il est parti dans quelques villages de pêcheurs phéniciens qui sont là sur la côte. Était-il en face de Beyrouth, de Sidon, de Césarée? Nous ne savons pas. Mais il pénètre à l'intérieur du pays pour aller voir ses amis en Israël. Et bientôt, le voilà dans une famille en Israël. Et il est reçu, on le connaît, on lui donne à manger, il raconte son histoire, on le regarde un peu de travers. Mais non, il a reçu un message de Dieu. On l'aide pour trouver une caravane qui partira en Assyrie. C'est un long voyage, un très long voyage, plusieurs semaines. Il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Enfin, il trouve une caravane de chameaux, de commerçants. Les commerçants phéniciens, peut-être, ou d'autres tribus, d'autres races. Il se joint à cette caravane, lui seul, israélite. Si Dieu l'envoie, Dieu sera avec lui. Si Dieu l'envoie, Dieu le protégera. Si Dieu l'envoie, il pourra prêcher son message. Il y a des gens qui veulent 1000 garanties avant de se lancer, qui veulent 1000 protections de la part des hommes. Non, Dieu est suffisant. Si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu le feras. Car il sera avec toi. Tu seras sa bouche. Quel privilège! Quel privilège! Et le voici sur les chameaux pendant des semaines et des semaines. Et je vois mon Jonas étendu sur sa natte pendant la nuit, cherchant le sommeil. Il regarde le ciel étoilé et son esprit s'en va en communion avec son Dieu. Mais je ne comprends pas, ô Dieu, je ne comprends pas. Je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Et je sais, Seigneur, que tu risques peut-être de faire miséricorde à ce peuple. Pourquoi? Ils ont besoin du jugement et rien de plus. Mais ils n'osent pas s'écarter de la voie de Dieu. Il a appris une leçon, mais en lui, il y a une révolte. Après bien des jours, il s'approche de la ville de Ninive avec toute cette caravane. Il est là, il arrive, il descend et il s'engage dans la ville. Jamais Jonas n'est entré dans Ninive. Probablement qu'ils pouvaient communiquer dans leur langue, c'est très probable. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui ne peut pas communiquer. Ou alors, il va lui donner quelqu'un qui va l'aider à communiquer. Toujours est-il que Jonas a communiqué avec Ninive. Il nous a dit qu'il parcourut. Il a commencé à parcourir la ville une journée de marche. Il s'arrêtait à tous les carrefours. Il s'arrêtait sur toutes les places publiques. Il s'arrêtait à tous les marchés. Et mon Jonas, tout le monde le reconnaît. On voit qu'il vient d'un pays étranger. On voit qu'il vient d'Israël. Il a sa barbe. Il n'a pas coupé sa barbe comme font les Assyriens. Il a sa barbe qui pousse telle qu'elle est. Il porte un manteau comme on porte en Israël. On voit que c'est un étranger, entre guillemets. Peut-être même qu'il parle avec un certain accent. Peu importe, Jonas, avec courage, commence à parler sur les places publiques. Il n'a pas d'orchestre. Il n'a pas de chorale. Il n'a pas de haut-parleur. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas faire d'évangélisation sans ça. Il n'a pas de garde du corps. Jonas, envoyé de l'Éternel. Il n'a pas de chameau ou de chevaux. Il n'a que ses pieds. Mais il a un message reçu de Dieu. Voilà ce qui fait l'homme de Dieu. Envoyé par Dieu. Ce que Dieu lui demande, c'est d'être fidèle avec ce que Dieu lui a dit de prêcher et d'annoncer. Il commence à déclamer sur ses places publiques et ses carrefours. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Là, nous avons le thème de son message. Mais quant à moi, je pense que là autour, il y a tout un développement. Le Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel et la terre, m'a envoyé pour vous annoncer un message. Et ce message est celui-ci. 40 jours, il vous donne ce délai. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas de votre mauvaise voie, il va vous détruire. N'a-t-il pas fait cela à Sodome et à Gomorre dans le passé? Il va vous détruire. Votre méchanceté est montée jusqu'à lui. Il vous donne 40 jours. Là, Jonas ne comprend pas. Il vous donne 40 jours. Pourquoi 40 jours? Que va-t-il se passer dans ces 40 jours? Jonas est très sceptique quant au résultat. Vous êtes des idolâtres. Vous avez des dieux dont la bouche ne peut parler, dont les oreilles n'entendent pas, dont les jambes ne peuvent se déplacer, ne peuvent bouger. Vous devez les porter sur votre dos, car ils sont impotents. Mais le Dieu créateur a fait toutes choses, et c'est lui qui m'a envoyé. Jonas, qui est cet homme? On le regarde, on s'étonne de son courage, on s'étonne de sa façon de parler. C'est un étranger, il vient d'Israël, ça se voit. Ah! N'est-ce pas le Dieu d'Israël duquel tous parlent et qui a fait tant de miracles pour eux et qui a écrasé des nations entières devant eux? Jonas, c'est un signe pour ces gens de Ninive, rien que sa présence. La renommée d'Israël s'étendait parmi toutes les nations. Ils avaient su et ils connaissaient les grandes délivrances accordées à ce peuple par la puissance de ce Dieu puissant. Comme il avait ouvert la mer Rouge devant eux, comme il les avait nourris dans le désert. Tous les peuples ont entendu parler de la magnificence et de la puissance de ce Dieu jaloux qui ne supporte pas d'être partagé avec d'autres dieux. Ils ont entendu parler de ce Dieu puissant qui guérit, qui agit de façon si extraordinaire. Ils le regardaient de loin sans véritablement le connaître. Mais maintenant, cet homme qui vient de ce pays où ce Dieu est servi jusque chez nous pour nous avertir qu'il va nous détruire, nous savons comment il a détruit d'autres nations, d'autres peuples. Oh, Ninivites, écoutez! Un prophète, un homme est venu de ce pays pour nous avertir. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ils l'ont compris, ils l'ont discerné. Un prophète est venu de ce pays. Il a un message pour nous. Dieu parle par la bouche de son serviteur. Il est dit, les gens de Ninive crurent en Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont commencé à faire quelque chose. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils reçurent le message de Jonas. Ils acceptèrent son message. Et ils agissent en conséquence. Il est dit, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive, un roi assyrien, la plus haute autorité du pays. L'histoire ancienne nous parle de ces rois puissants, despotes, cruels. On a trouvé sur des plaques d'argile, ces gens à cette époque-là ne connaissaient pas le papier. Et les premiers qui ont inventé le papier, du moins une certaine forme de papier, c'était les Égyptiens avec les papyrus. Mais à cette époque-là, ils écrivaient sur des plaques d'argile avec un petit stylet et ils marquaient des lettres là-dessus selon leur langue et leur orthographe. Et on a pu déchiffrer cette écriture grâce à d'autres découvertes qu'on a faites. Toujours est-il que, sur une de ces plaquettes, on a découvert l'exhortation de l'un de ces rois assyriens aux autres peuples qui entouraient sa nation de compter avec Dieu et de revenir à Dieu. Serait-ce du temps de Jonas? Nous ne savons. Mais certes, il y a eu un rayonnement du témoignage du Dieu d'Israël dans les autres nations. Car Dieu n'est pas indifférent aux besoins de salut pour les non-juifs. Les gens donc de Ninive, ainsi que le roi, la plus haute autorité du pays, lorsqu'il a entendu le message, il se leva de son trône, il ôta ses vêtements royaux. Il se couvrit d'un sac de... Et il s'assit sur de la cendre. Je suis sûr qu'il n'a pas fait mettre la cendre à côté de son trône, mais qu'il est sorti de son palais. Et là, dans la cour, il s'est assis dans la poussière en signe de deuil. Le premier magistrat, que dis-je, le roi de cette puissante nation devant laquelle des pays entiers tremblent. Il fit annoncer dans toute la ville que tous les hommes, que toutes les bêtes, jeûnent et même se privent d'eau, qu'ils soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée à ses mains. Il savait. L'exemple donné par la tête de la nation. Toute la ville est bouleversée. Imaginez-vous quelque peu. Toute la ville est bouleversée à mesure que Jonas proclame son message inspiré par l'Esprit de Dieu. Il va à travers toute la ville. Il va dans les banlieues. Il va dans les quartiers éloignés du centre. Et partout, il se crée un bouleversement. Des messagers du roi le suivent de près et donnent ordre que chacun crie à Dieu pour lui implorer grâce et miséricorde. Ils disent, alors que Jonas passe, vous avez entendu, l'ordre du roi est celui-ci. Notre roi, le grand tel est tel, je ne sais pas quel était son nom, le grand tel est tel, est lui-même assis dans la cendre, et il s'est revêtu d'un sac, et il crie à Dieu, et il donne ordre à toute la nation de se repentir et de crier à Dieu. Si Dieu nous entend, il nous épargnera. Pour lui implorer grâce et miséricorde, un grand réveil se déclenche dans la ville de Ninive. Un grand réveil. On dirait aujourd'hui un mouvement de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, à l'ouïe de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce d'autre que cela? C'est un mouvement de l'Esprit de Dieu sur ces Ninivites, qui les convainc de pécher. On a vu de telles choses dans le passé, dans plusieurs réveils qui ont soufflé à travers des hommes de Dieu, des Jonas envoyés par Dieu dans les siècles passés, dans de nombreuses villes, dans de nombreux pays, dans de nombreux villages, en Angleterre, dans le pays de Galles, en Amérique du Nord et dans d'autres pays. Ailleurs, à travers des messagers envoyés par Dieu, comme, si vous voulez des noms, Stephen Jeffries, Wesley, Whitefield, Finney, et d'autres encore. Oui, des Jonas, rien que des Jonas. Certains d'entre eux, de ces hommes, ont eu de la peine à comprendre la volonté de Dieu, ont eu de la peine à abandonner leur gagne-pain, si je puis dire, ont eu de la peine à se mettre en route pour apporter le message. Mais dès l'instant où ils ont obéi, ils ont vu la main de Dieu les accompagner et ils ont été envoyés par Dieu avec un message. Et des villes entières se tournèrent à Dieu. Des villages, des régions entières ont se sont tournés à Dieu dans des régions qui étaient mal famées, dans des régions où il y avait le banditisme, dans des régions où il y avait la violence et la méchanceté, dans des régions complètement pourries. Dieu est intervenu, les bars ont été fermés car il n'y avait plus de clients. Les maisons de tolérance, de prostitution ont été fermées elle n'était plus fréquentée par qui que ce soit. Un retour à Dieu, dans les larmes, dans la repentance, dans le brisement. Dieu l'a fait, non pas seulement à Ninive, mais dans combien de villes à travers le monde. Frères, sœurs, c'est ça que nous voulons voir ici au Congo. Car c'est encore le jour de la grâce. Et Dieu veut manifester sa grâce envers Kinshasa, envers notre Congo, où il y a tant d'immoralité, où il y a tant de vols et de banditisme et de tueries, où il y a tant de magouilles sur tous les plans. Ce n'est pas impossible. Nous sommes dans un délai de 40 jours. Quand sera-ce la fin de ces 40 jours? Je ne sais. Mais de toute façon, je sais que depuis la croix jusqu'à l'envers de l'Église, c'est le délai de grâce que Dieu a donné à l'humanité. Et nous arrivons à la fin de ce délai de grâce. Qu'il crie avec force. Des villes entières ont été complètement bouleversées. Des parties de pays ont été entièrement bouleversées. Et c'est écrit dans l'histoire. Et vous pouvez le lire. Et vous pouvez le connaître. Un retour à Dieu dans les larmes, dans la repentance, dans le brisement. Dieu regretta le mal qu'il avait décidé de faire. C'est ce qui est écrit. Ceci veut dire que Dieu a pitié. Le but pour lequel il a envoyé son messager est atteint. Ils se sont repentis. Ils ont prouvé leur repentance par des actes de repentance et un changement de vie. Dieu savait de toute éternité que Ninive se convertirait. Mais pour que Ninive se convertisse, il faut un messager avec un message. Lorsqu'il est dit que Dieu regretta, cela ne veut pas dire que Dieu change. Dieu reste immuable. Il est tout puissant. Il est toute sagesse. Il est tout amour. Dieu est toute vérité. Dieu est toute grâce. Dieu est toute sainteté. Comment concilier la loi et la grâce? Il est celui qui conduit l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Il connaît le passé et il connaît le futur. Dans ses plus petits détails, que veut dire alors que Dieu regretta? Il ne peut voir le péché. Et le jugement du péché, c'est la mort. Et c'est inévitable quant au péché. Car la justice de Dieu réclame le jugement du péché et du pécheur. Mais son désir est de retenir le jugement et de sauver. Mais là, il ne veut rien faire sans la décision de l'homme, sans son libre choix volontaire. Le libre arbitre de l'homme. Bien sûr qu'il le sait à l'avance. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas immédiatement fait tomber le ciel, le feu du ciel sur Ninive. Il savait qu'ils allaient se repentir. Et il préfère la repentance, la grâce, le pardon au jugement et à la destruction. Nous lisons dans Joël, chapitre 12, versets 13 et 14. Il est dit là. Il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être, l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il de lignes de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction? Vous voyez, les mêmes termes sont employés dans l'affaire de Ninive. Qui sait, c'est le roi qui dit cela, s'il n'usera pas de miséricorde envers nous? Pourquoi? Parce que la grâce et la miséricorde ne sont pas des choses obligatoires. Dieu n'est pas obligé de nous faire grâce. Dieu n'est pas obligé de nous rendre miséricorde. Les hommes sont invités à changer de comportement. La grâce de Dieu ne fait pas l'objet d'un marchandage. C'est pour cela qu'il dit, qui sait, peut-être. Ce n'est pas un marchandage. Amos, le prophète Amos, au chapitre 5 et au verset 15, nous dit ceci. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez le droit et la justice. Alors peut-être, de nouveau la même façon de parler, l'Éternel Dieu des armées célestes aura-t-il compassion? Peut-être. Rétablissez le droit et la justice, peuple congolais, et humiliez-vous. Alors peut-être. Dieu ne nous doit rien. Tout est par grâce. Ici, il s'agit de revenir sur ce qui a été fait pour en annuler les effets. Non pas parce que l'Éternel regrette ce qu'il a fait, ce qu'il fait, mais parce que son peuple aura changé d'attitude. Dieu châtie parce que sa justice l'exige. Mais il ne prend pas de plaisir à cela. Il préfère bénir, il préfère sauver, il préfère pardonner. La grâce du coupable n'est jamais un dû obligatoire. Même si on change de comportement, le changement d'attitude de Dieu par rapport aux hommes de Ninive répond à leur changement de comportement. Ce n'est pas la seule fois qu'il est dit que Dieu regretta ou que Dieu se repentit. Dans Genèse 6:6, il est dit là, « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur en fut affligé. » Est-ce qu'il ne savait pas, Dieu, que l'homme se révolterait contre lui? Est-ce qu'il ne savait pas que, à ce moment-là, la terre serait complètement polluée par le péché et par la violence? Bien sûr qu'il le savait. Et quand la chose s'est passée, Dieu s'est lamenté. Il est souverain, il est immuable, et rien ne peut altérer cette vérité concernant sa nature. Il n'a pas de compte à rendre à l'homme sur ses actions. En tant que Dieu souverain, il a un plan avant même que le monde ne fût. Il savait ce qu'il allait faire en faveur de Ninive. Et par conséquent, il n'y aurait aucune nécessité de changer son plan. Dieu ne peut être surpris. S'il savait que Ninive allait se repentir, alors c'est pour cela qu'il a envoyé un messager. Et il était crucial, important, capital que Jonas aille à Ninive. La repentance de Ninive n'a pas obligé Dieu à changer ses plans pour la ville, non. Son plan pour la ville, dès le départ, a été d'envoyer Jonas pour qu'elle se repente. Voilà son plan. C'est son plan, c'est sa volonté. Il veut sauver, il veut pardonner à Ninive. Comme c'était sa volonté aussi de sauver Sodome et Gomorre. Oh, s'il avait trouvé 10 justes à Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre auraient subsisté. Mais il n'y avait pas 10 justes. Il n'y avait qu'un juste et demi. La femme de Lot, elle avait la grâce. Elle est rentrée dans la grâce, mais elle s'est retournée en arrière en violant le commandement de Dieu. Elle est devenue une statue de sel. La colère de Dieu est tombée sur Sodome. Pourquoi ? C'était des gens au cœur dur, inaccessibles à la parole de la vérité. Et chaque jour, Lot tourmentait son âme en voyant la méchanceté des hommes de Sodome. Pour ces villes, le jugement est tombé. Pour Ninive, Dieu a retenu le jugement. Il savait qu'elle se repentirait et qu'elle serait épargnée. Mais pour cela, il fallait un messager, Jonas. Et l'annonce d'un jugement pour secouer leur conscience. Son but est de sauver, secouer la conscience. Combien d'hommes et de femmes ont une conscience endormie? Et Dieu secoue leur conscience. Il les avertit. Ils doivent être avertis des conséquences du rejet de la grâce qui leur est offerte. C'est ce délai de 40 jours. Voilà la grâce. 40 jours. Ils ne savent pas ce qui va se passer après 40 jours. Dans 40 jours, le jugement va tomber. Avertissement. Délai de grâce. Est-ce qu'après ces 40 jours, Dieu va arrêter et ne pas nous détruire? Peut-être aura-t-il compassion. Peut-être échapperons-nous. Peut-être entendra-t-il notre prière. Et le roi dit, criez à Dieu, éloignez-vous de vos mauvaises œuvres et de la violence qui est dans vos mains. Dieu savait qu'elle se repentirait. Qu'elle serait épargnée, mais pour cela, il fallait un messager. Ils doivent être avertis des conséquences du rejet de la grâce. La grâce qui leur est offerte, c'est ce délai. C'est le moyen que Dieu utilise pour les réveiller afin qu'ils puissent les épargner. Ainsi, quand il est dit que Dieu regretta ou qu'il se repentit, cela veut dire qu'ils renoncent à la deuxième solution concernant leur péché à cause de leur repentance. Une repentance qui est garantie par celui qui viendra un jour payer le prix du pardon. Car la loi exige qu'il y ait punition pour le péché. Et ce jour est venu dans la personne de Jésus-Christ qui a pris le péché de Ninive. Et le péché de tous les pécheurs qui se sont tournés vers la grâce de Dieu et qui ont été sauvés dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et les 40 jours de délai ont commencé à la croix pour nous tous. Il a toujours été de son plan de sauver. Pour les amener à cette repentance, qu'il sait qu'elle va venir, qu'elle va se manifester, il leur parle de jugement, il leur parle de bouleversement qui fondra sur eux comme une conséquence de leur péché, tout en donnant un délai de grâce. Le mot « regret » utilisé ici dans la langue hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, a le sens de se lamenter, de s'attrister. Il en est de même dans les autres endroits où repentir ou regretter est utilisé dans nos Bibles. Quand cela se rapporte à Dieu, Dieu se lamente, Dieu est attristé et il a pitié quant au jugement et à la destruction de Ninive. Et au jugement et à la destruction de notre ville et de notre génération. Dieu se lamente. Dans le texte original hébreu de l'Ancien Testament, ce même mot est retrouvé 40 fois pour exprimer qu'il est attristé, qu'il a pitié. Notre Dieu est profondément affligé, attristé de la condition humaine. Et par pitié, il leur offre le salut qui est par grâce. Dieu offre le salut à notre génération. Il offre le salut par un délai pendant lequel Jonas crie. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance est toujours utilisé en relation avec l'homme et exprime un changement radical avec un retour à Dieu. À Ninive, ils ont changé non seulement leur pensée, mais leur cœur aussi. Et l'ont prouvé par leurs œuvres. Que chacun revienne de sa mauvaise conduite. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce que le roi a dit. Que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas regret et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Qui sait? Revenons à Dieu dans les larmes de la repentance. Une véritable repentance est confirmée par les œuvres qui l'accompagnent. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée et il disait, « Produisez des fruits dignes de la repentance. » Les gens de Ninive reconnurent leur mauvaise conduite et de leur violence. Ils reconnurent leur méchanceté et ils se repentirent et le manifestèrent par des œuvres qui accompagnent la repentance. C'est ce que Jésus disait lui-même. C'est ce que les apôtres, comme l'apôtre Paul, prêchaient également aux gens de son temps dans Actes 26, 20, où il dit « J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu » avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Dieu n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit qu'il aurait fait. Il n'y a pas de péché en lui, donc pas de regret pour quoi que ce soit qu'il aurait fait. Mais pour Ninive, à l'ouïe du jugement, à cause de leurs mauvaises œuvres, ils se repentent. Il s'humilie et Dieu fait grâce. Elle n'applique pas la loi, mais applique la grâce. Nous ne devons jamais oublier. Vous rejetez la grâce, vous tombez sous la loi. Il n'y a pas d'alternative. Que choisissons-nous? Dieu n'applique pas la punition pour le péché de Ninive. Son but ultime, le but, la volonté de Dieu, c'est de montrer grâce et de sauver. À cause de la repentance sincère et des œuvres, fruit de la repentance qui est démontré. Le but est atteint. Dieu pardonne. Nous voulons être pardonnés, nous voulons être sauvés, nous voulons être objet de la grâce de Dieu. Cette grâce, ce pardon, ne se manifestera que lorsque nous ferons le pas nécessaire. Nous repentir de nos œuvres mauvaises, de la violence de nos mains, de la violence de nos bouches, de nos actes répréhensibles, de notre corruption, de notre infidélité. Car Dieu parle à travers le monde, à travers tant de cataclysmes, à travers tant de typhons, de tempêtes, de tremblements de terre, de raz-de-marée. Dieu parle. Le jugement est tombé déjà. Ce n'est qu'un commencement. Allons-nous endurcir nos cœurs? Il est vrai que si Ninive ne s'était pas repentie, dans les 40 jours, elle aurait été détruite, comme Sodome et Gomorrhe. Mais le « si » s'applique à l'homme et non pas à Dieu. La condition est pour l'homme, elle n'est pas pour Dieu. Dieu savait qu'il se repentirait. Et il était prêt à accepter leur repentance par grâce en vue de celui qui viendrait payer le prix pour le péché. Il a provoqué les circonstances qui les ont amenés à la repentance. Aujourd'hui, Dieu provoque des circonstances et les hommes veulent expliquer ces circonstances par la science. Ils expliquent le pourquoi. Ils expliquent le comment, mais ils oublient que le plus grand scientifique, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est capable, par sa science, de juger le monde. Dieu n'est pas indifférent à notre sort, soit pour le temps, soit pour l'éternité. Il veut sauver, il veut pardonner, mais son cœur est peiné et il a du chagrin. De voir l'entêtement des hommes avec leur incrédulité. Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, 7 à 8, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Vous savez qu'il y a un moment de jugement, qu'il y a une colère qui vient sur le monde. Vous voulez échapper et pour cela vous devenez religieux. Vous venez à l'église, vous chantez des cantiques. » Vous venez à l'église et vous avez des actions religieuses. Mais ceci n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que vous changiez de comportement. C'est que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur. Il ne sait que faire de religieux hypocrites. Il les appelle race de vipères. Jean-Baptiste disait cela aux pharisiens et aux scribes qui, entendant son message, étaient touchés dans leur cœur et ils savaient qu'un jugement viendrait sur les infidèles. Et pour échapper à ce jugement, ils voulaient devenir religieux. Non, race de vipères, produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà ce que nous donne encore le message de Jonas. Baissons la tête. Tu nous parles, Seigneur. C'est parce que tu veux nous sauver. Tu nous parles, ô Dieu, c'est parce que tu ne veux pas qu'aucun d'entre nous, nous soyons sous le jugement, sous la colère. Tu nous parles, ô Dieu, parce que tu as compassion. Tu as compassion de cette ville de Kinshasa. Tu as compassion de ce pays qui s'appelle le Congo, où les hommes deviennent tellement durs et ils mélangent les choses saintes avec les choses profanes. Ils essayent de marcher sur deux chemins à la fois, avec les plaisirs du monde, la débauche du monde, tout en même temps en étant religieux pour essayer de vivre et d'avoir le bénéfice de ce que tu donnes. On ne peut faire de marchandage avec la grâce. Si nous voulons être sous le bénéfice de la grâce, la seule chose que nous devons faire, c'est de changer de comportement. Faire comme Ninive, crier à Dieu. Peut-être aura-t-il compassion. Peut-être nous épargnera-t-il. Ceci dépend de nous. Allons-nous aller jusqu'au bout? Ceci s'adresse à chacun d'entre nous. Avez-vous votre vie en règle avec le Dieu vivant? Êtes-vous simplement religieux ou êtes-vous un homme et une femme qui marchaient dans la lumière? Mettez votre vie en règle devant le Dieu vivant. Le délai court à sa fin. Le délai court à sa fin. Mettez-vous en règle avec lui. Vous n'êtes pas en règle et vous le savez. Moi, je ne sais rien de vous, mais lui connaît tout. Levez-vous. Levez-vous, vous qui voulez être en règle devant lui. Levez-vous, mettez votre vie en règle. Marchez avec lui. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, 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 être en règle avec toi. Y en a-t-il d'autres encore? Marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, mettre sa vie en règle devant Dieu. Merci Seigneur, merci pour ces nombreuses personnes qui se lèvent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu entends l'appel qui leur est adressé. Seigneur, ils y répondent maintenant. Parce que Dieu travaille dans leur cœur pour échapper. Car la colère vient. C'est vrai, la colère est là. La loi est là. Le jugement est là. Mais parallèlement, il y a la grâce. Et la grâce a ses conditions. Reprends-toi. Change de vie et de comportement. Alors peut-être que sa grâce se manifestera. Et tu feras partie de son peuple. Seigneur, tu vois ces nombreux hommes et femmes qui se sont levés. Je te les apporte maintenant et te demande dans ta grâce et de ta miséricorde de leur donner, Seigneur, le pardon, le salut, la transformation. Ô mon Dieu, et qu'ils échappent, que nous échappions au jugement de la colère qui vient sur ce monde rebelle. Seigneur, serait-il possible que dans notre ville de Kinshasa, le message soit entendu et que les bars soient fermés et que les maisons de tolérance soient fermées et que la cupidité, la magouille de tout genre cesse. Serait-il possible? Je sais que c'est possible, mais ceci dépend de nous et non pas de toi. Seigneur mon Dieu, donne des oreilles pour entendre. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Ouvre les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Et que le message soit entendu, Seigneur. Oui, il n'y avait qu'un seul homme, Jonas, pour prêcher à Ninive, la grande ville. Mais un homme avec Dieu, c'est une majorité. Et cet homme a fait des exploits parce qu'il avait reçu un message et parce que le Dieu vivant voulait sauver. Et non pas faire périr. Seigneur, ne fais pas périr cette ville, ne fais pas périr ce pays, mais que ta grâce se manifeste tout à nouveau à travers ceux que tu envoies qui vivent cette vie, une vie nouvelle. Touche ceux-là qui se sont levés, Seigneur, et qu'ils vivent. Je t'en prie, entends ma prière. Reprenez vos places. Vous pouvez venir après le culte sous la paillote. Nous avons des frères, de nos conseillers, qui peuvent parler avec vous, prier avec vous. Suivez ce chemin. C'est le chemin de la vie. Seigneur, bénis et sanctifie l'offrande que tes enfants vont te présenter maintenant. L'offrande, les dîmes. Ô Jésus, Seigneur, fais-les prospérer, je t'en prie. Que chacun fasse des expériences. Seigneur, par la foi, ô Dieu, quelles que soient les difficultés des temps, tu veux les bénir et les faire prospérer. au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.